Cet après-midi, la perturbation va avancer et toucher la moitié ouest de la France. Les températures, 13 à Nice ce matin, 7 à Paris, 8 à Toulouse et 2 à Lyon. Et cet après-midi, vous aurez 13 degrés à Biarritz, 12 à Brest et 9 à Lille.
Il est 6h sur Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Lénaïque Monnier pour le premier journal.
Que peut l'Europe face à l'imprévisible Donald Trump? La rupture semble consommée entre les présidents américains et notamment français. Le 49-3 ne passe pas pour les partis du socle commun. Les critiques fusent contre la méthode Le Cornu pour obtenir son budget. Et puis les premiers effets en France de l'IA sur l'emploi. Le géant Capgemini limoge à tour de bras.
Et puis Serge Papin est-il en train d'enterrer la loi Egalim? Le ministre du Commerce plaide désormais pour des contrats sur plusieurs années pour donner davantage de visibilité aux producteurs. Et à la une de votre journal, ce divorce pas forcément à l'amiable entre la France et les États-Unis.
Oui, Donald Trump est attendu à Davos pour un face-à-face avec les dirigeants européens. On ne sait pas quand il arrivera, puisqu'on a appris cette nuit que son avion avait fait demi-tour en raison d'un problème électrique. Si toutefois il arrive comme prévu à destination, il sera sans doute question de ce dossier épidermique, l'annexion du Groenland qui menace de faire éclater l'alliance transatlantique d'un point de vue à la fois géopolitique et économique. Parce que le président américain persiste et signe, on a bien le droit de mettre en place des droits de douane. Une légalité justement examinée en ce moment par la Cour suprême de justice. En cas de revers, cela pourrait être compliqué pour Donald Trump car ça lui coûterait cher au sens propre du terme. La Cour suprême a beau être conservatrice, elle n'est pas pour autant trumpiste. Hugo Toudic est directeur adjoint de l'Institut international de recherche de l'Université de Chicago à Paris.
C'est un véritable trou financier qui va grever le budget si la Cour, et la Cour devrait le faire si la Cour refuse à Donald Trump le droit de fixer les tarifs. Si tout cela s'effondre, le roi est nu et Donald Trump n'a plus aucun autre levier sur la scène internationale. On pourrait effectivement penser que ces juges vont être tentés d'aller du côté de Donald Trump, mais les conservateurs, par définition, à la Cour suprême, ils sont originalistes. C'est-à-dire que pour eux, les décisions de la Cour suprême doivent s'appuyer sur la façon dont pensaient les pères fondateurs. Les États-Unis se sont fondés pour donner le monopole de la taxation au Congrès. C'est certainement pas aujourd'hui que des juges originalistes vont revenir là-dessus.
Voilà pour le premier volet concernant le président américain, l'aspect économique et sur le plan géopolitique. La présence de Donald Trump au forum de Davos est également attendue. Le président arrive avec une délégation XXL, il doit prendre la parole. Tout le monde est un peu tétanisé après la publication de SMS privés. Emmanuel Macron, dont Donald Trump a publié les messages sur les réseaux sociaux, dénonce la brutalisation du monde. Et le chef de l'État d'affirmer que l'Europe doit utiliser les outils très puissants dont elle dispose si elle n'est pas respectée. Alors justement, qu'a-t-elle à sa disposition, éléments de réponse avec Marc Tédé.
Augmenter les droits de douane sur les marchandises venant des États-Unis, interdire l'accès des entreprises américaines aux marchés publics européens ou encore déployer davantage de militaires européens au Groenland. L'éventail des moyens à la disposition des pays européens est large, mais un accord est loin d'être acquis, explique Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et expert des questions européennes.
L'Italie ne le souhaite pas, l'Allemagne c'est tangent, l'Europe est désunie. Est-ce qu'elle est capable de faire face à Donald Trump, plus l'Europe sera faible et plus Donald Trump poussera ses pions pour convaincre l'Union européenne de céder.
Donald Trump est-il encore un allié? S'interrogeait hier Emmanuel Macron. Le considérer comme un agresseur reste en tout cas difficile à envisager pour de nombreux pays de l'Union européenne, détaille Éric Maurice, analyste au Centre des politiques européennes à Bruxelles.
Il y a une vraie dépendance économique, technologique, militaire, politique et aussi une dépendance psychologique chez beaucoup de leaders européens. Réagir face à un agresseur alors que cet agresseur était depuis des décennies l'allié principal, c'est extrêmement difficile.
Il faut donc maintenir le dialogue avec les États-Unis, d'autant que les Européens ont encore besoin d'eux, tant que la Russie n'aura pas renoncé à ses ambitions en Ukraine.
Voilà, et le torchon brûle entre alliés historiques. Emmanuel Macron en est convaincu et l'a redit. Les États-Unis cherchent à affaiblir l'Europe. Une rupture avec Washington fait peut-être donc son chemin.
On l'a vu hier lorsque Emmanuel Macron a refusé de rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump.
Oui, c'est cette version trumpiste de l'ONU voulue par le président américain et à laquelle la France ne souhaite pas participer. Réaction de Donald Trump, menace sur les vins et les champagnes français avec 200% de droits de douane. Une épée de Damoclès pour un secteur déjà en difficulté. Voilà ce qu'estime Thibaut Hubert, qui est le président de l'appellation vin de Bourgogne et qui exporte 20% de sa production aux États-Unis.
On a la sensation d'être la variable d'ajustement dans un conflit qui ne regarde absolument pas la filière viticole ni les spiritueux. On se remettait tout juste du 15% annoncé cet été. Il y avait une reprise d'activité avec les États-Unis sur les exportations. Et là, ça va mettre un nouveau coup d'arrêt. Ce qu'on redoute le plus, c'est une réaction du président américain par rapport à des déclarations de notre président à nous. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une réelle concertation européenne. Pas forcément un président qui prenne la parole tout seul, qui du coup agite un peu le président américain et l'amène à avoir ses réactions.
Une fois n'est pas coutume, les eurodéputés vont en majorité se prononcer sur des lignes nationales plutôt que partisanes sur le Mercosur. Ils doivent décider de saisir ou non aujourd'hui la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité de l'accord signé samedi au Paraguay. Le vote prévu en milieu de journée s'annonce très serré. L'actualité à l'étranger toujours est la loi des séries en Espagne. Un accident ferroviaire a fait au moins un mort et quatre blessés graves dans la soirée en Catalogne. Un train de banlieue a heurté les débris d'un mur qui s'était effondré sur la voie. Dimanche, une autre catastrophe avait déjà fait au moins 42 morts dans le pays, selon un bilan qui vient d'être actualisé.
Radio Classique 6h06, retour en France avec le deuxième jour d'une audition cruciale pour Marine Le Pen au Palais de Justice de Paris pour son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Rassemblement National.
Il n'y a pas eu de système généralisé. Marine Le Pen a tenté de convaincre la cour d'appel qui la juge pour détournement de fonds. À la barre, pendant près de 5 heures, la triple candidate malheureuse à la présidentielle a réfuté tout système généralisé de détournement de fonds au profit du Front National de l'époque. Et puis, c'est chose faite. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé par un 49-3 la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du projet de loi de finances. La France Insoumise a immédiatement annoncé le dépôt d'une motion de censure. Le RN va le faire également. Des motions qui seront débattues vendredi matin sans possibilité de faire tomber le gouvernement, puisque les socialistes qui ont conclu un accord ne les voteront pas. Après plus de 350 heures de débat, terminer cette séquence par un 49-3 est un échec selon la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui regrette que la France n'arrive pas à trouver compromis entre forces politiques opposées.
C'est la démocratie, évidemment, qui perd aujourd'hui. Il faut qu'on modifie nos règles pour que ce soit le dernier budget discuté de cette façon-là. Ça n'est pas possible de continuer comme ça. Dans tous les pays européens, ils arrivent à adopter des budgets alors qu'ils sont en majorité relative pour la plupart d'entre eux. Ça n'est pas satisfaisant et donc il faut que nous puissions avancer différemment. Et puis maintenant, il faut aussi avancer sur un certain nombre de textes. Nous avons beaucoup à faire dans l'intérêt des Français. Nous devons parler de l'aide à mourir, de l'aide sociale à l'enfance, du budget de nos armées, la situation internationale gravissime dans laquelle nous nous trouvons. Et donc maintenant, il faut qu'on parle du fond et il faut qu'on puisse avancer.
Soulager, apaiser, soutenir le texte sur l'aide à mourir étudié depuis hier au Sénat à l'ouverture de ces débats, le président des Républicains Bruno Retailleau a résumé la position d'une grande partie de la droite majoritaire à la Chambre haute. Le risque, c'est qu'ils deviennent demain plus facile de demander la mort que d'obtenir un soin. Les débats vont durer une semaine avant un vote solennel qui est prévu le mercredi 28 janvier à 16h30.
L'intelligence artificielle bouleverse le monde du travail aux États-Unis. Amazon et Microsoft ont déjà licencié des milliers d'employés et cette vague est en train d'arriver en France.
Pour le moment, seuls les métiers manuels semblent être épargnés par cette déferlante. On a donc appris hier que 2400 postes étaient menacés chez Capgemini. Le géant de l'informatique l'a annoncé. Il va privilégier les reclassements et les départs volontaire. Dans son communiqué, le groupe s'explique et évoque, je cite, les mutations technologiques. Mais attention, l'IA a parfois bon dos et parfois en partie du moins une fausse excuse, Zoé Pallier.
Des suppressions de postes massives à cause de l'intelligence artificielle, l'argument étonne un peu les experts. Car dans les entreprises, l'IA ne permet pas encore de gagner clairement en productivité.
Pour le moment, le compte n'y est pas.
Malo Mofakami, chercheur en économie à l'université Sorbonne-Paris-Nord.
Par exemple, il y a des logiciels de comptabilité qui aujourd'hui utilisent de l'IA. Si vous avez ces logiciels qui sont à 95% performants mais qui font 5% d'erreurs, en fait, pour un consommateur, c'est bluffant. Mais pour une entreprise, c'est énorme. 5% d'erreurs. Des comptables bien formés, bien organisés, ils font pas 5% d'erreurs, ils en font beaucoup moins.
Pourtant, cet automne, l'entreprise de conseil Accenture a supprimé 11 000 postes, officiellement, là aussi à cause de l'intelligence artificielle. Naila Glaise est salariée d'Accenture et présidente du syndicat européen des cadres, Eurocadre.
C'était une excuse bidon et c'était un moyen de rassurer les actionnaires, de leur dire, regardez, nous innovons pour mettre en place l'intelligence artificielle. Ça passe mieux que dire, on se débarrasse des salariés simplement parce qu'on n'arrive pas pas atteindre nos objectifs.
Mais dans l'opinion, l'intelligence artificielle est perçue comme une vraie menace pour l'emploi. Si on leur dit qu'ils seront remplacés par une IA, les salariés ont du mal à contester, ce qui en fait un argument presque irréfutable pour les entreprises.
Et j'ajoute que l'action Capgemini a chuté d'ailleurs de 2,77% à la clôture hier à la bourse après l'annonce de ses 2400 suppressions.
Et on termine avec une bonne nouvelle sur le front du cancer. Globalement, les taux de mortalité diminuent.
Oui, au niveau mondial et pour la toute première fois de l'histoire, la barre symbolique des 70% de survie a été franchie. En revanche, en France, un signal inquiète. Certaines tumeurs augmentent chez les femmes, comme pour le côlon ou le sein. En cause, selon Emmanuel Ricard, médecin de santé publique pour la Ligue contre le cancer, leur consommation d'alcool qui égale désormais celle des hommes.
On sait par exemple que 8000 cancers du sein sont dus à la consommation d'alcool et c'est d'autant plus difficile pour elles que contrairement à d'autres cancers comme le cancer du foie, le cancer de l'œsophage où il faut 4-5 verres par jour, la question du cancer du sein, elle est dès le premier verre. L'alcool est un perturbateur endocrinien, donc il aura un impact sur les cancers avec la question des hormones. Là, on a une vraie mobilisation à faire. On n'est pas bon par rapport aux chiffres européens et on a une dégradation en matière de suivi gynécologique, ce qui a des répercussions sur cancer du sein et cancer du col de l'utérus.
Et des propos recueillis par Rémi Pfister pour Radio Classique.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Prochain journal, ce sera à 6h30 avec Charles Bonner et l'économie, comme tous les matins. Ce sera à 6h45. Très bon réveil sur Radio Classique, il est 6h11.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et à la une de l'économie, les producteurs de vin et de champagne directement visés par Donald Trump, le président américain, veut leur imposer 200% de droits de douane, ce qui en pratique revient à leur bloquer l'accès au marché américain. Les producteurs peuvent-ils rebondir sur d'autres marchés, notamment avec les pays du Mercosur? On y reviendra tout à l'heure dans le journal de l'économie. Jusqu'à 2400 postes menacés chez Capgemini en France. Le géant de l'informatique l'a annoncé hier, il va privilégier les reclassements et les départs volontaires. Dans un communiqué, le groupe explique cette décision par des mutations technologiques et notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. La baisse des prix de l'électricité à partir du mois de février sera finalement très limitée en France. La Commission de régulation de l'énergie propose une baisse de seulement 0,83% pour les tarifs bleus d'EDF, soit 9 euros d'économie par an en moyenne pour un ménage. Et puis, dans l'actualité entreprise, on y reviendra dans le journal de l'économie, Renault va produire des drones militaires sollicités par le ministère des Armées. Le constructeur automobile va s'associer avec Turgis Gaïa. C'est un groupe industriel spécialisé dans le secteur de l'aéronautique et de la défense. Il reste un peu moins de 6 semaines pour parvenir à un accord dans la grande distribution en vertu de la loi Egalim. Producteurs et distributeurs doivent se mettre d'accord chaque année avant la fin du mois de février sur le tarif des 12 prochains mois. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
L'objectif est d'offrir de la visibilité aux producteurs et de leur permettre également de renégocier leurs tarifs tous les ans. Mais le ministre du Commerce, Serge Papin, plaide désormais pour des contrats sur plusieurs années, ce qui n'est pas l'esprit de la loi Egalim.
C'est ça, il s'agit de mettre un terme à ce bras de fer annuel qui oppose industriels et distributeurs, un rapport de force qui est source de tension bien sûr. Certes, la loi Egalim protège l'intérêt des agriculteurs en tenant compte du prix des matières agricoles, mais elle délaisse des paramètres tout aussi importants comme les coûts de production, notamment ceux concernant l'énergie ou l'emballage. Serge Papin, ancien patron de Système U, plaide donc en faveur de contrats pluriannuels, à l'instar de ce qui se pratique chez nos partenaires européens, des contrats pluriannuels réunissant agriculteurs, industriels et distributeurs. Cela offrirait aux PME davantage de visibilité. Elles pourraient ainsi davantage investir sur le long terme, davantage produire de manière décarbonée et puis surtout gagner en compétitivité. Pour cela, encore faut-il pouvoir mettre toutes les parties prenantes d'accord. C'est ce à quoi s'est employée la charte de bonne conduite signée en amont des négociations commerciales, mais dont l'efficacité reste à démontrer.
Merci beaucoup Éric Mauban. Tout à l'heure à 7h15, le directeur général d'Indigo, Xavier Heulin, sera l'invité des Voix de l'économie. Nous parlerons de la transformation des parkings parisiens du fait de la baisse du trafic automobile. Certains vont être transformés en centres logistiques, mais d'autres parkings pourraient devenir des centres de commandement militaire ou encore des espaces de sécurité ou de protection de la population. Est-ce que la France est en train de passer en économie de guerre? Nous lui poserons la question tout à l'heure à 7h15. Très bon réveil sur Radio Classique, il est bientôt 6h15. L'invité de Comment j'ai réussi, Michel Bassot. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le président de Big Ben Connected. Vous commercialisez des accessoires pour les tablettes et les téléphones portables. Avec une particularité importante, vous êtes l'un des rares acteurs de ce secteur à fabriquer vos produits en France. D'abord, quelques mots sur le marché du smartphone. Après des années de très forte croissance, il est beaucoup moins dynamique. Aujourd'hui, la durée de possession moyenne d'un téléphone mobile est de 4 ans, c'est-à-dire deux fois plus qu'il y a 10 ans. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution ? Est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est économique ?
C'est à la fois technique, c'est économique et c'est surtout un comportement qui a changé. Les gens, effectivement, privilégient les téléphones haut de gamme. Tout le monde préfère avoir un téléphone performant, bonne photo, rapide en Internet. C'est la consommation de tous les jours. Tous nos billets d'avion, de train, notre compte Amélie et d'autres, tout ça est sur notre téléphone. On l'utilise beaucoup. Il vaut mieux que ce soit un bon téléphone.
Mais forcément, vu le prix de vente de ces téléphones, on ne peut plus en changer tous les ans ou tous les deux ans.
Exactement. Donc, on le garde plus longtemps. Et finalement, pour nous, fabricants d'accessoires, ça devient une opportunité, puisque si vous gardez votre téléphone 4 ans, vous allez changer de coque peut-être deux fois, perdre votre câble plusieurs fois, votre chien éventuellement, il reste dans le taxi, donc ce sont finalement des opportunités de vente supplémentaires. Encore faut-il être agile et que l'entreprise s'adapte à ces nouveaux modes de consommation du téléphone et des accessoires.
Justement, on renouvelle ces accessoires parce qu'on a envie de changer, simplement pour avoir l'impression d'avoir un nouveau téléphone, ou est-ce que c'est, comme vous le dites, l'utilisation au quotidien de ces appareils qui fait que les accessoires ont du mal à suivre ?
Alors, il n'y a pas d'études, il faut être honnête sur ce sujet, mais notre compétence, on est expert, ça fait maintenant 30 ans que la société existe sur ce domaine de la fabrication d'accessoires pour les smartphones et les équipements numériques. C'est pas vraiment un renouvellement plaisir. Peu de gens changent de coque par pur plaisir. C'est plutôt parce que soit on perd son câble, soit le chargeur n'est plus adapté, et on a des opportunités intéressantes. Il y a des sauts technologiques. Par exemple, depuis deux ans, la connectique a été normée par l'Europe. Et donc l'ensemble des constructeurs, même le plus célèbre d'entre eux, à la pomme, je ne vais pas citer la marque, a changé de connecteur, de mauvais gré, mais c'est une très bonne chose. Et donc tout le monde a le même connecteur, c'est une opportunité. Donc les gens qui avaient des anciens câbles sont obligés de les changer.
Je ne vois pas de quelle marque vous voulez parler. Vous avez choisi de faire fabriquer vos produits en France. Pourquoi ce choix, sachant que c'est un marché très concurrentiel, où le prix est souvent un facteur de décision important pour le consommateur ?
C'est un facteur essentiel, puisque c'est un achat qui vient après celui du téléphone, que les gens déjà consacrent un budget important. Donc il reste à dépenser un équipement qui est pourtant un service indispensable. L'accessoire, c'est pas vraiment un produit, finalement, pour nous, c'est la vidéo en service. Ça permet d'augmenter l'expérience client. La coque va protéger votre téléphone. Vous pourrez donc l'acheter plus cher et le revendre en meilleur état. Un chargeur de qualité fait que vous usiez moins la batterie du téléphone. Et un câble qui marche pas, évidemment, la vie du téléphone s'arrête. Et la charge est indispensable.
Est-ce que le Made in France concerne l'intégralité de vos produits ou seulement le plus haut de gamme ?
Alors, on va donner un nombre très simple. Une coque sur trois que nous vendons vient qui est fabriqué en France et certifié Origine France garantie.
Donc là, vous êtes un ovni sur ce marché.
Alors, on n'est pas tout seul, mais j'espère qu'on est le plus performant. Et surtout, on a commencé à fabriquer en France en 2010.
Mais est-ce que c'est facile de trouver des fabricants en France pour ces produits en plastique, en silicone, ou même pour les produits électroniques qui sont très massivement produits en Asie ?
Alors, c'est très difficile de trouver en France, puisque, par exemple, nos coques transparentes, tout le monde les connaît, ce sont les plus vendues. Cette matière-là n'a jamais vraiment existé en France. Quand elle a été créée, ces petits produits étaient déjà fabriqués en Chine. Donc il faut trouver des usines et des dirigeants d'entreprises qui ont la volonté de trouver des relais de croissance. Quant à l'électronique, c'est encore plus compliqué, puisqu'il y a une demande de prix bas qui est difficile à faire en France. Mais en prenant du courage, du talent, de la chance, de l'agilité, en trouvant des patrons de boîtes qui ont envie de bouger, on a trouvé des partenaires qui nous accompagnent et ça fonctionne bien.
Tous les chefs d'entreprise du secteur industriel vous comprendront. Quel est l'écart de prix en termes de fabrication entre la France et l'Asie ?
Entre 0 et 10 %.
Seulement ?
Très simple, absolument. Par exemple, lorsque vous allez créer une coque en France, bien entendu, elle est plus chère, les salaires sont plus élevés, la qualité du travail est souvent meilleure, il faut être honnête, hein, les ouvriers français qui travaillent dans ces usines sont très engagés sur la qualité. Par contre, vous n'avez pas à payer de transport, vous n'avez pas de taxes d'importation, puisque quand c'est comme ça, il faut faire du 100% Origine France garantie, réellement. Et là, on arrive à réduire l'écart à un niveau très faible, et ça passe par l'automatisation de la production.
Et on sait qu'elle respectera les normes européennes.
Absolument, puisque c'est très à la mode en ce moment. Je pense que je ne vise non plus personne. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas du tout aux normes ni conformes. Et quand c'est de l'électronique, c'est un vrai danger pour les utilisateurs.
On va parler marketing. Vous avez créé un segment premium sur ce marché, c'est-à-dire des accessoires de bonne qualité qui sont plus chers, mais pour lesquels vous proposez une garantie à vie.
Tout à fait. Lorsqu'on a, il y a quelques années, commencé à comprendre que ce marché allait changer, que si on ne faisait pas quelque chose pour créer une nouvelle offre, le prix allait s'effondrer. Et évidemment, quand le prix s'effondre, il n'y a plus d'argent à gagner.
Cette garantie est valable notamment pour les écouteurs, puisque vous commercialisez des écouteurs. Si on perd l'un des deux, ce qui arrive apparemment très souvent, il sera remplacé gratuitement. Sachant que c'est relativement facile à perdre, est-ce que c'est rentable pour vous?
Oui, tout à fait, puisque finalement, ce coût que nous portons, on l'inclut dans le prix de vente, c'est très normal. Le consommateur va payer pour son service, et pourtant, on arrive à avoir des prix assez compétitifs, puisque on a des produits de très bonne qualité à moins de 50 euros qui ont cette promesse d'échange à vie, qui sont en plus fabriqués en plastique recyclé.
Vous êtes présent dans les boutiques qui vendent des téléphones portables, évidemment, mais aussi dans les bureaux de poste et les stations-service. Pourquoi ce choix? Est-ce que ce sont vraiment des lieux où on s'attend à trouver des produits plutôt haut de gamme?
Alors, oui, ça répond à votre question de tout à l'heure, puisqu'on a maintenant un temps de possession moyen de pratiquement 4 ans pour un téléphone. Personne ne va faire 20 km pour acheter un produit, mais si un produit lui manque, il va l'acheter là où il est. Donc les premiers lieux de vie, eh ben, c'est les stations-service, c'est les bureaux de poste. Donc nous allons être présents en 2026 dans presque 1000 bureaux de poste. Et nous sommes aujourd'hui déjà présents dans près de 1000 stations totales en France. C'est un lieu de vie, nous devons être présents.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Michel Basso, président de Big Ben Connected. Quelles sont les différentes marques que vous commercialisez?
Force, la marque premium, créée il y a maintenant plus de 10 ans. Avec près de plus de 20 millions de produits vendus et la garantie à vie pour toute cette marque, Big Ben, un segment d'accès qui permet d'aller plus facilement dans les grandes surfaces alimentaires.
Voilà, pour couvrir l'ensemble du spectre.
Exactement.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Il est 6h21. Nous allons parler économie avec Nathalie Jonson.
Stéphane Pedrazzi sur Radio Classique.
Nathalie Jonson qui va nous parler des actionnaires ce matin.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphane.
Aujourd'hui, nous allons revenir sur une pratique qui fait régulièrement débat, c'est le rachat d'actions par les entreprises. Pour certains, c'est le symbole d'une financiarisation excessive de notre économie, mais pour d'autres, c'est un outil de gestion parfaitement rationnel. De quoi est-ce qu'on parle vraiment lorsqu'on parle de rachat d'actions?
Alors, un rachat d'actions, c'est lorsqu'une entreprise utilise une partie de sa trésorerie, ou parfois via de l'endettement, pour acheter ses propres actions sur le marché. Ces actions sont ensuite annulées ou conservées en propre. Dans les deux cas, le nombre d'actions en circulation diminue. Le résultat est mécanique. Si les profits restent inchangés, le bénéfice par action augmente. C'est une manière de redistribuer du capital aux actionnaires, au même titre que le dividende, mais avec davantage de flexibilité.
Mais pourquoi, Nathalie, est-ce que cette pratique s'est autant développée au cours des 20 dernières années?
Alors, tout d'abord, il y a une raison plutôt macroéconomique. Cette période a été marquée par des taux d'intérêt proches de zéro jusqu'en 2022. Dans le même temps, les grandes entreprises ont généré beaucoup de trésorerie. Lorsqu'une entreprise a financé tous les projets d'investissement qu'elle juge rentables, une question se pose, faut-il conserver cet excédent, l'investir, mais à un rendement relativement faible, ou alors le restituer aux actionnaires? Le rachat d'actions est souvent la réponse la plus rationnelle. C'est là qu'on objecte souvent que racheter des actions se ferait donc au détriment de l'investissement et de l'innovation. En réalité, cette opposition repose sur une confusion. Le rachat d'actions n'intervient généralement pas à la place de l'investissement, mais après l'investissement. Une entreprise n'arbitre pas entre innover ou racheter ses actions. Elle investit d'abord, puis redistribue le surplus si aucun projet supplémentaire n'offre un rendement suffisant.
Est-ce qu'on a des exemples en France, Nathalie?
Alors oui, Stéphane, et l'exemple le plus marquant est sans aucun doute celui d'Apple. C'est l'entreprise qui a le plus racheté ses propres actions au monde depuis une quinzaine d'années. Pourtant, il est vraiment difficile de considérer qu'elle aurait renoncé à l'innovation. Apple symbolise l'innovation permanente, figure parmi les plus grands investisseurs mondiaux en recherche et développement. Il lance en continu des nouveaux produits, des nouveaux services et structure des écosystèmes technologiques entiers. Racheter des actions n'empêche nullement d'innover quand le modèle économique est rentable.
Là, on parle d'entreprises américaines, mais est-ce qu'en France aussi, les entreprises sont sur cette tendance?
Oui, et à Radio Classique, on est donc bien placé pour en parler, puisque LVMH combine depuis plusieurs années des programmes de rachat d'actions avec des investissements importants dans la création, le design, la distribution et l'intégration de nouvelles maisons. Total Energy est un autre exemple aussi. Il mène des rachats d'actions importants tout en investissant chaque année des montants importants considérable dans l'énergie, la transition énergétique et l'innovation industrielle. Là encore, le rachat n'est pas un appauvrissement des perspectives, mais un choix d'allocation du capital. Pour terminer, un autre élément souvent oublié dans le débat, c'est l'évolution de l'actionnariat. Depuis 20 ans, la part des investisseurs individuels a fortement progressé, surtout aux États-Unis, via par exemple des apps comme Robinhood, mais plus modestement en France, via des PEA ou les ETF et assurance vie. Cette montée des particuliers n'est pas la cause évidemment de l'essor des rachats d'actions, mais elle en renforce l'attractivité.
Pour quelle raison ?
Alors parce que les investisseurs individuels sont sensibles à des indicateurs simples comme le bénéfice par action ou le cours de bourse. Le rachat d'actions a un impact direct, il est souvent fiscalement plus avantageux qu'un dividende. Donc, à mesure que l'actionnariat se retailise, si on peut me permettre l'expression, les entreprises privilégient d'abord des modes de redistribution flexibles, comme le rachat d'actions. Mais ce sont avant tout, quand même, la rentabilité élevée des grandes entreprises, l'abondance de leur liquidité et la rareté relative des projets qui expliquent cette montée en puissance des rachats. Pour conclure, opposer rachat d'actions et investissement est un faux débat. Les rachats d'actions ne sont ni un renoncement à l'innovation, ni un pillage de l'avenir. Ils sont le reflet d'entreprises arrivées à maturité, capables d'investir massivement et de redistribuer du capital. La vraie question n'est donc pas de condamner cette pratique, mais de comprendre pourquoi les opportunités d'investissement productif parfois se raréfient.
Merci beaucoup. Nathalie Janson, tous les matins pour les classiques de l'économie. Il est 6h26. Le journal du classique ce soir à 20h sur notre antenne et un avant-goût tous les matins avant le journal de 6h30. Bonjour Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez de Christophe Rousset qui met un point final à son cycle Lully.
Il dirigera en effet ses talents lyriques ce dimanche, le 25 janvier, à la Philharmonie de Paris, dans la tragédie lyrique de Lully qu'il n'avait pas encore gravée et qui est pourtant la toute première du compositeur, à savoir Cadmus et Hermione. Car Christophe Rousset n'a pas choisi de suivre l'ordre chronologique, mais il aura, durant de longues années, exploré toute l'œuvre lyrique de ce compositeur qui a véritablement créé l'opéra français avec justement Cadmus et Hermione et qui, à travers ses 14 tragédies lyriques, a profondément marqué l'histoire de la musique, régnant même sur ce genre de l'opéra jusqu'à sa mort. Mais des ouvrages que l'on redécouvre depuis quelques petites décennies seulement. Alors qu'apporte la fréquentation d'un cycle entier, d'une telle intégrale ? C'est l'une des questions que j'ai posées à Christophe Rousset. On l'écoute.
Ça apporte à moi certainement une vision très globale de l'œuvre, mais aussi ça permet, je pense, à l'auditeur d'avoir une vision sur un compositeur, un style, un genre comme la tragédie lyrique. Et donc il y a quelque chose de très cohérent dans ce que j'ai fait entre la première, le Percé de Lully, et ce Cadmus et Hermione. Donc c'est pour moi, oui, un vrai cheminement. Je dis toujours que ce que j'aime faire avec l'âge qui arrive, puisque j'ai passé mes 64 ans là, et on a passé les 35 ans des talents lyriques, donc c'est beaucoup. Ça veut dire que on polit sa pierre, on polit son diamant, et j'ai l'impression d'être de plus en plus exigeant et de plus en plus précis dans ce que j'ai envie de réaliser sur une œuvre comme celle-là.
Un extrait d'Attis de Lully par Christophe Rousset et ses talents lyriques, l'une des plus récentes publications discographiques de Christophe Rousset dans le cadre de son cycle Lully, cycle qu'il clôturera dimanche à la Philharmonie de Paris avec Cadmus et Hermione, qui fera ensuite l'objet d'un enregistrement.
une très bonne raison pour écouter Radio Classique. Ce soir à 20h, on vous retrouvera alors.
Je serai là ce soir. Très belle journée à tous.
Dans un instant, le journal de 6h30. Juste après, nous irons au Venezuela avec Nicolas Bouzou dans Un monde de progrès. Il nous expliquera pourquoi les Vénézuéliens ont choisi d'utiliser massivement les stablecoins en dollars. Qu'est-ce qu'un stablecoin ? On vous expliquera aussi tout ça dans une dizaine de minutes. Il est 6h29. La météo. Avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne.
Le Morbihan et le Finistère sont donc placés en vigilance orange. Plus inondation alors qu'ailleurs. C'est plutôt sec et plutôt ensoleillé d'ailleurs cet après-midi. La perturbation va toucher la moitié ouest du pays. Les températures au meilleur de la journée. 5 à Strasbourg, 11 à Lyon, 9 à Lille, 12 à Orléans et 10 à La Rochelle.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Charles Bonner pour le journal.
Avec à la une ce matin, Marine Le Pen fait un demi-mea culpa à son procès en appel sur les assistants parlementaires. La tornade Donald Trump attendue au forum de Davos alors que les Européens cherchent la bonne riposte. Et puis, manager ne fait plus rêver entre les horaires et un salaire peu attrayant. Ce sont notamment les jeunes qui refusent.
Les pays du Mercosur peuvent-ils devenir une alternative pour les producteurs de vin et de champagne ? Les producteurs français sont désormais visés par des droits de douane de 200% aux États-Unis. Et à la une de votre journal, Marine Le Pen qui était de nouveau auditionnée hier à son procès en appel.
Dans l'affaire des assistants parlementaires du FN qui lui a valu une condamnation en première instance, notamment à une peine d'inéligibilité. Interrogée hier pendant plusieurs heures, Marine Le Pen a cherché à convaincre qu'aucun système n'avait existé, confirmant donc un changement de stratégie lorient tout le monde.
Les deux mains autour du pupitre, Marine Le Pen a troqué sa pugnacité des meetings pour répondre d'un ton affable à la présidente de la cour d'appel. L'interrogatoire est intense, précis, chaque email, chaque SMS lié aux assistants parlementaires du FN est épluché. On voit que c'est vous qui êtes en copie, vous qui êtes associé à la décision, relève la magistrate. Je ne suis pas des RH, réplique la chef de file du Rassemblement National avant de reconnaître que certains assistants n'ont manifestement pas travaillé pour leurs députés, mais au bénéfice du parti. Quant aux multiples montages financiers à charge, ce sont des nœuds à la tête, des plans sur la comète, balaie Marine Le Pen qui réfute l'existence d'un système. On a le sentiment d'une manipulation, dit-elle. À défaut d'obtenir la relaxe, la candidate en sursis à l'élection présidentielle entend au moins diminuer sa peine d'inéligibilité et surtout qu'il n'y ait plus d'exécution provisoire, ce qui lui permettrait de se présenter en 2027.
Et pendant que la présidente des députés RN était au tribunal, à la Assemblée nationale, Sébastien Lecornu déclenchait comme prévu l'article 49.3 pour faire passer le budget sans vote sur la partie recette dans un premier temps. Critiqué, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a défendu sa stratégie, à savoir celle de quitter, je cite, le confort des postures faciles pour ne pas être dans le camp de ceux qui se limitent à la critique.
Entre négocier et riposter, les Européens hésitent.
Certains vont tenter d'échanger avec Donald Trump qui sera aujourd'hui en Suisse au forum économique de Davos pour un discours en début d'après-midi et des discussions dans les couloirs sur le Groenland et sur les droits de douane qu'il menace d'imposer si le territoire danois ne lui est pas vendu. La riposte, en revanche, défendue par la France, c'est l'instrument anti-coercition qui pourrait priver les entreprises américaines d'accès au marché européen. Et c'est la bonne voie pour Pascal Lecan, député MoDem de la Commission des affaires économiques.
On assiste à une succession de déclarations de guerre, soit commerciales, soit géopolitiques ou territoriales. À un moment donné, il faut dire stop. Le seul objectif de Trump, on le voit bien aujourd'hui, c'est une escalade de la discorde pour que les pays européens n'aient pas le même intérêt. Donc je vois bien aujourd'hui Mélanie qui commence à dire on pourrait peut-être négocier, il n'a pas vraiment voulu dire ça, etc., etc. Et on va se trouver en situation où on ne pourra pas actionner l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Pour ça, il faut avoir une majorité qualifiée. Il faut d'abord créer la solidarité européenne pour ensuite décider de quelle politique de rétorsion on applique aux États-Unis.
Propos recueillis par Victoire Fort. Et dans ce contexte, le Parlement européen a gelé l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe hier. Celui signé cet été qui prévoit 0% de droits de douane pour les États-Unis contre 15% pour les Européens. Les eurodéputés qui vont aussi voter aujourd'hui sur le Mercosur ou plutôt sur une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. semaine. Un vote qui s'annonce serré. Les députés devraient plutôt voter selon leur nationalité que leur parti. On y revient dans le journal de 7h de Lénaïque Monnier.
Radio Classique 6h34. Un rapport des Nations Unies estime que l'eau est désormais en état de faillite mondiale.
Entre exploitation, pollution et pénurie, l'eau est déjà la source de conflits, peut-être bientôt de guerres majeures. Ce rapport ne fait que confirmer que cette ressource devient de plus en plus rare. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Le rapport souligne que les rivières, les lacs s'épuisent plus vite que la nature ne peut les reconstituer.
Oui, et c'est pour cela que les auteurs de ce rapport refusent le terme de crise qui sous-entend qu'un retour en arrière est possible. Ces auteurs utilisent un vocabulaire bancaire pour faire comprendre la situation. De nombreux pays ont dépassé leurs revenus en eau apportés par les pluies ou la neige et ils ont dû piocher dans leur épargne pour répondre à leurs dépenses. Ce sont les ressources souterraines ou les glaciers. Une épargne qui ne peut pas se renouveler, ce qui amène à la faillite. Ce phénomène se traduit par le rétrécissement des grands lacs, par des grands fleuves qui ne se jettent plus dans la mer à certaines périodes de l'année ou par la diminution des zones humides. C'est presque la superficie de l'Union européenne qui a disparu en 50 ans. Conséquence, les trois quarts de l'humanité vivent désormais dans une zone en tension. Pour tenter d'améliorer la situation, les auteurs préconisent une meilleure gestion de l'eau en utilisant mieux, par exemple, les outils technologiques pour mesurer l'état réel des ressources. Avant de conclure, en matière d'eau comme de finances, la faillite peut être un tournant.
Augustin Lefebvre, et l'eau, c'est le thème du livre de Gaspard Koenig, « À quoi ?» aux éditions de l'Observatoire. Il est l'invité de David Abiker à 8h15. Symbole de la réglementation environnementale détricotée, les ZFE, les zones à faible émission. Les députés et sénateurs se sont entendus hier soir pour confirmer leur suppression en commission mixte paritaire. Ce sera effectif si la loi simplification est définitivement adoptée. C'est une alerte que lance l'Ordre des infirmiers ce matin sur une situation courante dans les hôpitaux. Les violences contre les infirmières, violences sexistes et sexuelles, une sur deux déclare en avoir déjà subi, mais très peu, 2% portent plainte. Sophie, son prénom est modifié, à 26 ans, elle est infirmière aux Hospices Civils de Lyon.
Du coup, moi, en plus, je suis infirmière de nuit. Forcément, on est en effectif réduit et on est très seul face à des mains baladeuses, des choses très déplacées. Personnellement, moi, je laisse pas passer. Mais à quoi bon porter plainte alors que ce sera probablement peut-être traité soit dans 5 ans, 10 ans ou qu'il faut beaucoup de preuves. Des fois, c'est juste des injures orales. Et après, si jamais c'est un médecin qui commet ce genre d'atrocité, ben, il va rien se passer. Hein. À l'hôpital, tout se sait. Donc, le soignant qui a porté plainte risque d'être harcelé, risque d'être poussé à la démission. Moi, ça, je trouve ça lamentable.
Un témoignage recueilli par Rémi Pfister.
Et puis, on termine par une question. Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir manager?
Une progression dans la carrière, des responsabilités. Et pourtant, cela intéresse de moins en moins, selon l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. En 3 ans, la part de cadres qui souhaiteraient manager a baissé de 8 points. À peine un tiers sont intéressés. C'est surtout marqué chez les plus jeunes. Moins de la moitié en ont envie. C'est le reportage de Simon Marseille au pied des tours de la Défense.
Esplanade de la Défense.
Bienvenue dans ce grand quartier d'affaires où le parvis fourmille, de jeunes cadres la vingtaine badge autour du cou. Sont-ils prêts à prendre un jour la place de leur manager?
Il faut que j'y réfléchisse.
Moi franchement non.
Pour rien au monde, je prendrais cette responsabilité-là de rester jusqu'à aussi tard le soir pour gagner 500-600 euros de plus par mois.
Il faut absorber aussi le stress qui va descendre en fait des responsables.
Ça, vous en seriez capable?
Non.
Si après le travail, on continue toujours à marceler de questions, etc. C'est niette.
Et le fameux mail de 22h, c'est ça?
Le fameux mail de 22h.
Et ça serait quoi la grosse condition pour dire oui s'il y en a une?
L'argent, hein.
Il faut une bonne augmentation quand même.
Ça change rien du tout.
Aurait-on les mêmes réponses si l'on ménageait nos managers? C'est ce que recommande Gilles Gâteau, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres.
Le droit à la déconnexion, ça doit aussi concerner les managers. Et si on ne le fait pas, on aura de moins en moins de jeunes prêts à jouer ces rôles qui sont essentiels dans l'entreprise. Donc il faut que la culture change, que eux-mêmes ne soient pas pris entre le marteau et l'enclume, comme on dit souvent, il faut les accompagner.
Retenons ce chiffre, plus d'un manager sur deux estime travailler régulièrement sous pression.
Le reportage de Simon Marseille pour Radio Classique.
Merci beaucoup Charles Bonner. Prochain journal dans quelques minutes, ce sera pour l'économie et à 7h avec Lénaïque Monnier. 6h38 sur Radio Classique, à suivre comme tous les matins, un monde de progrès avec Nicolas Bouzou, ce matin direction le Venezuela.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Echo, Valtus réalise plus de 1000 missions chaque année.
Courrier international présente Goodbye America. En un an, à la Maison-Blanche, Donald Trump a sapé les fondements de la démocratie américaine. Une dérive autoritaire accompagnée d'une révolution culturelle qui bouleverse le pays. Comment en est-on arrivé là? Comment les Américains le vivent-ils? Un hors-série de Courrier international, en vente chez votre marchand de journaux.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Stéphane.
Il paraît que les Vénézuéliens utilisent massivement des stablecoins en dollars. De quoi est-ce qu'il s'agit et surtout pourquoi est-ce qu'ils font ça ?
Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est adossée à une monnaie réelle, en l'occurrence le dollar américain, et dont la valeur reste stable, autour de 1 dollar justement. Au Venezuela, cet usage est directement lié à l'hyperinflation et à l'effondrement de la monnaie locale, le bolivar. Cette monnaie qui a perdu massivement de sa valeur, ce qui rend impossible la conservation de l'épargne ou même les transactions quotidiennes. Alors dans ce contexte, évidemment, les stablecoins sont une forme de dollar numérique accessible à toute personne qui dispose d'un smartphone, d'une connexion internet. Ça évite de passer par le système bancaire traditionnel qui est également peu fiable, voire totalement inaccessible. Les Vénézuéliens peuvent utiliser ces stablecoins pour protéger leur pouvoir d'achat ou faire des achats du quotidien dans l'alimentation. Et donc, ils utilisent finalement indirectement une monnaie qui singe le dollar plutôt que des bolivars dépréciés. Ça leur permet aussi de recevoir de façon fiable des fonds de l'étranger.
Donc, on peut considérer que c'est un système monétaire parallèle qui s'est mis en place au Venezuela grâce à la technologie.
Oui, c'est exactement ça. C'est une forme de système monétaire, mais qui n'est pas officiel, qui n'est pas institué par une banque centrale ou par la loi. Il s'est développé de manière pragmatique par des acteurs privés, des citoyens, dans un environnement économique et légal extrêmement dégradé. D'une certaine façon, ces stablecoins ont créé une infrastructure financière alternative qui opère à côté du système traditionnel sans remplacer légalement la monnaie nationale ni devenir une monnaie officielle adoptée par l'État.
Vous êtes en train de me dire que l'innovation protège les Vénézuéliens de l'arbitraire du pouvoir.
C'est exactement ce que je vous dis en effet Stéphane. Les stablecoins offrent une alternative pour préserver la valeur des économies face à une monnaie nationale fortement dépréciée par les politiques ineptes du pouvoir. Ça permet à des particuliers ou à des entreprises d'effectuer des paiements et des transferts sans recourir à des banques qui sont dysfonctionnelles. Alors évidemment, ça ne signifie pas qu'on élimine toute forme d'arbitraire économique. Les stablecoins existent dans un cadre légal et réglementaire qui est flou et leur usage peut être sujet à des risques de volatilité ou peuvent même être d'ailleurs sujet à des restrictions éventuelles. Mais le système repose sur des raisons décentralisées, des intermédiaires privés qui certes ne fournissent pas les mêmes garanties qu'un système bancaire régulé, mais enfin proposent une solution concrète pour contourner les effets destructeurs de l'hyperinflation et des défaillances monétaires engendrées par le socialisme chaviste.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, tous les matins pour Un Monde de Progrès.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private Discuss.
Private Discuss, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discuss.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Avec GSF Propreté et Services, acteur du service aux entreprises, et sa filiale Pénélope, leader de l'accueil.
Trois titres à la une de l'économie, le vin et le champagne français menacés à nouveau d'une forte augmentation des droits de douane aux États-Unis. Dans ces conditions, le Mercosur pourrait constituer un plan B. On y revient dans ce journal. Capgemini va supprimer jusqu'à 2400 postes en France. La société de conseil et de services informatiques va privilégier les reclassements et les départs volontaires. Et puis la France est-elle en train de passer progressivement en économie de guerre ? Renault, un groupe industriel civil, va en effet produire des drones militaires. Les vins et les champagnes français, de nouveau menacés par Donald Trump. Le président américain veut imposer aux producteurs 200% de droits de douane, ce qui reviendrait en pratique à leur bloquer l'accès au marché américain. Après le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre le club de la paix que souhaite créer Donald Trump, cette menace avait déjà été brandie l'an dernier lorsque les Européens envisageaient de répliquer aux surtaxes américaines sur l'acier. Et à l'époque déjà, l'urgence était à la réorientation des exportations françaises vers d'autres marchés, mais en quelques mois, Éric Kioch, la situation n'a pas vraiment évolué.
Avec 4 milliards d'euros en 2024, le marché américain est sans conteste le premier client de la France. Un quart de nos exportations de vins et spiritueux partent vers les États-Unis. Pour les vignerons, trouver un plan B en si peu de temps est impossible, explique Jean-Marie Cardebat, économiste à l'Université de Bordeaux et à l'INSEC.
Il y a un problème de stratégie nationale. Une partie de l'aide publique devrait s'orienter très clairement vers ces enjeux commerciaux et vers ce fameux plan B. Il faut explorer tout un tas de destinations qui vont remplacer à terme le marché américain qui pourrait bien se fermer de plus en plus.
Et pourquoi pas vers le Mercosur, avec qui nous venons de conclure un accord commercial avec des droits de douane préférentiels pour nos alcools, ou encore l'Asie du Sud-Est, l'Afrique. Mais le marché à conquérir, c'est l'Inde. La Nouvelle-Zélande vient d'ailleurs de conclure un partenariat avantageux.
Tout comme les vins néo-zélandais qui rentrent aujourd'hui avec des barrières beaucoup plus faibles sur le marché indien, il faut impérativement que les vins européens puissent obtenir ce même privilège. L'Inde, c'est près d'1,5 milliard d'habitants, et si on parle d'un pays qui pourrait remplacer le manque à gagner aux États-Unis, ça pourrait être celui-là.
Cela prendra du temps, mais pour un secteur systématiquement ciblé par les États-Unis ou la Chine, la recherche de nouveaux marchés n'est plus une question de croissance, mais de survie.
Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay, les pays du Mercosur, peuvent-ils devenir une alternative pour les producteurs de vin et de champagne ? Dans le contexte actuel, cette hypothèse peut-elle également faire changer la position de la France sur l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur ? Les députés européens doivent décider aujourd'hui de saisir ou non la Cour de justice européenne concernant la validité de cet accord de libre-échange. Le résultat du vote s'annonce serré, on y revient en détail dans le journal de 7h. Dans l'actualité entreprise, Capgemini va supprimer jusqu'à 2400 postes en France. La société de conseil et de services informatiques va privilégier les reclassements et les départs volontaires. Dans son communiqué, Capgemini évoque les mutations technologiques, dont l'intelligence artificielle. Aux États-Unis déjà, des groupes comme Amazon, HP ou encore Accenture ont récemment effectué des annonces similaires. Mais attention, l'IA a parfois bon dos. Elle sert d'excuse pour justifier des plans sociaux aux épaliers.
Des suppressions de postes massives à cause de l'intelligence artificielle, l'argument étonne un peu les experts. Car dans les entreprises, l'IA ne permet pas encore de gagner clairement en productivité.
Pour le moment, le compte n'y est pas.
Malo Mofakami, chercheur en économie à l'université Sorbonne-Paris-Nord.
Par exemple, il y a des logiciels de comptabilité qui aujourd'hui utilisent de l'IA. Si vous avez ces logiciels qui sont à 95% performants mais qui font 5% d'erreurs, en fait, pour un consommateur, c'est bluffant. Mais pour une entreprise, c'est énorme. 5% d'erreurs. Les comptables bien formés, bien organisés, ils font pas 5% d'erreurs, ils en font beaucoup moins.
Pourtant, cet automne, l'entreprise de conseil Accenture a supprimé 11 000 postes, officiellement, là aussi à cause de l'intelligence artificielle. Naila Glaise est salariée d'Accenture et présidente du syndicat européen des cadres, Eurocadre.
C'était une excuse bidon et c'était un moyen de rassurer les actionnaires, de leur dire, regardez, nous innovons pour mettre en place l'intelligence artificielle. Ça passe mieux que dire, on se débarrasse des salariés simplement parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs.
Mais dans l'opinion, l'intelligence artificielle est perçue comme une vraie menace pour l'emploi. Si on leur dit qu'ils seront remplacés par une IA, les salariés ont du mal à contester, ce qui en fait un argument presque irréfutable pour les entreprises.
Radio Classique, 6h48. La France est-elle en train de passer progressivement en économie de guerre ? Renault, groupe industriel civil, va en effet produire des drones militaires. Sollicité par le ministère des Armées, le constructeur automobile va s'associer avec Turgis Gaillard. C'est un groupe industriel spécialisé dans le secteur de l'aéronautique et de la défense. Éric Mauban.
Oui, les deux sociétés ont obtenu un contrat de 35 millions d'euros de la part du ministère des Armées. Il prévoit la fabrication de drones tactiques d'une dizaine de mètres d'envergure. La chaîne d'assemblage sera installée dans l'usine Renault du Mans, un site qui fabrique des châssis, des composants et des pièces de fonderie. L'objectif est de produire 600 drones par mois à l'issue de la première année d'activité. Les premiers essais devraient avoir lieu en septembre. Turgis Gaillard va apporter son expertise dans le domaine de la défense et de la conception de drones. De ce côté, eh bien, Renault apportera son savoir-faire industriel, une association qui devrait permettre de mettre sur le marché des drones à un prix très compétitif.
Merci beaucoup, Éric Mauban. Serge Papin est-il en train d'enterrer la loi Egalim, celle qui encadre les relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution? Le ministre du Commerce plaide désormais pour des contrats pluriannuels afin de donner davantage de visibilité aux producteurs. La loi Egalim devait leur permettre au contraire de renégocier leurs tarifs chaque année afin de répercuter notamment les variations de prix sur les matières premières. La baisse des prix de l'électricité à partir du mois de février sera finalement très limitée. La Commission de régulation de l'énergie propose une baisse de seulement 0,83% pour les tarifs bleus d'EDF, ce qui représente 9 euros d'économie par an en moyenne pour chaque ménage. Les taux de crédit immobilier vont continuer de grimper après une accélération au dernier trimestre 2025. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen pour un prêt immobilier sur 20 ans devrait atteindre 3,55% fin 2026 et pratiquement 4% à la fin de l'année prochaine contre 3,17% en décembre dernier. Les représentants de Shein et du BHV vont être auditionnés aujourd'hui devant la commission des affaires économiques du Sénat pour évoquer les nombreuses polémiques auxquelles fait face la plateforme chinoise de vente en ligne, mais pour évoquer également l'installation tumultueuse de la boutique Shein dans les rayons du BHV à Paris, un peu plus de 2 mois après l'ouverture de cet espace dans le centre commercial parisien. L'effervescence des premiers jours est retombée, les ventes ne décollent pas même en période de solde, comme la constaté Nina Droff.
Jean à seulement 25 euros, t-shirt à moins de 10 euros et des promotions allant jusqu'à moins 50%. Mais ces tarifs alléchants n'attirent pas les foules. À peine une vingtaine de clients sillonnent les rayons. Et la plupart ressortent du magasin les mains vides, à l'image de Sonia qui s'y rendait pour la première fois.
On a vu des hauts qui étaient déjà abîmés, des hauts en laine. Même niveau qualité-prix, on est largement moins cher dans les commerces habituels.
Même les fidèles de la marque qui achètent régulièrement sur leur site internet n'y trouvent pas leur compte.
Moins de collections en fait que sur le site sont limitées en termes de référence.
Ça égalera jamais un site, le magasin. Là, il n'y a que les vêtements, et même les vêtements, c'est pas toutes les marques Shein, entre guillemets, qu'il y a dessus. Moi, j'ai rien trouvé pour moi.
La direction du BHV le reconnaît, la fréquentation est bien en dessous des espérances. Pour Yann Rivoilan, président de la Fédération de l'habillement féminin, c'est avant tout lié aux polémiques autour de Shein, mais pas seulement.
Quand, dans un magasin, on essaie de présenter des produits normés et qu'on est obligé de payer les taxes, bah, tous les prix sont largement supérieurs au site, et donc, pour cela, tous les clients sont nécessairement déçus. Évidemment, ils ne reviennent pas. Comment le BHV va réussir à passer le mois de février? Quand on regarde les chiffres, ça ne peut pas tenir très longtemps.
Autre signal négatif, les ouvertures des 5 boutiques Shein prévues dans d'autres villes françaises comme Grenoble, Reims ou Dijon sont constamment repoussées ces dernières semaines.
Les marchés financiers, la bourse de Paris hier soir a terminé en baisse de 0,61%. Le CAC est à 8062 points. Le chiffre du jour, 82% des managers en entreprise déclarent utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail. Le chiffre a pratiquement été multiplié par 4 en l'espace de 2 ans. C'est ce qui ressort d'un sondage Opinionway réalisé pour la Kedge Business School. Bonjour Cécile Daven.
Bonjour.
Vous êtes directrice des programmes à Kedge Business School. L'adoption de l'IA qui progresse en entreprise, on va dire que c'est pas une surprise. En revanche, 82% des managers qui l'utilisent désormais, je crois que c'est un niveau très élevé.
Oui, absolument. Et là, on peut vraiment parler d'une évolution spectaculaire, hein, puisque comme vous le disiez, on est passé d'une utilisation il y a 2 ans à 21% pour arriver aujourd'hui à 82%. Alors, dans le milieu professionnel, aujourd'hui, l'IA est avant tout perçue comme un outil d'efficacité qui va viser à faciliter, à accélérer et à améliorer le traitement des tâches et des missions. Donc, en quelques chiffres, 72% des managers l'utilisent dans la recherche d'informations, 61% dans la synthèse de documents, et ils sont plus de la moitié à générer des idées en vue de la préparation de réunions ou de reformulation de messages. Néanmoins, ce que démontre notre enquête, c'est que l'IA s'invite également dans la gestion des équipes. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on cherchait à identifier. Et donc, c'est près de la moitié des managers qui vont aller chercher des conseils managériaux, préparer les entretiens annuels ou bien encore gérer des situations tendues.
Autre enseignement de cette enquête, l'adoption de l'IA est plus rapide chez les moins de 40 ans. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle est en train de devenir un marqueur générationnel ?
Absolument. C'est ce que démontre très clairement l'étude. On a même une fracture générationnelle qui est en train de s'installer. On l'a vu, forte progression. Mais ce qu'on voit, c'est que chez les plus jeunes, l'IA est déjà devenue un véritable levier stratégique et collaboratif. Je parlais tout à l'heure des usages, notamment dans la gestion des équipes. Eh bien, c'est chez les jeunes managers, moins de 40 ans, que tous ces usages vont se retrouver à 64% pour obtenir des conseils sur les problématiques managériales, contre 30% chez les plus de 50 ans. Donc là, on voit qu'on est du simple au double dans l'utilisation de l'IA à viser de gestion des équipes. Donc là, on est sur une fraction importante, notamment préparation des entretiens annuels. De la même façon, on est à 59% de jeunes qui vont s'aider de l'IA pour aller chercher de l'information versus 24% des aînés. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que pour les seniors, l'IA demeure encore un outil à apprivoiser, alors que les nouvelles générations y voient, elles, déjà un allié de performance, de décision et même de dialogue managérial.
Mais je vous le confesse, je fais des efforts pour essayer de rester employable sur ce marché. Comment est-ce que vous enseignez l'intelligence artificielle à la Kedge Business School ? C'est une technologie, on le sait tous, qui évolue à une vitesse vertigineuse. Comment est-ce qu'on peut enseigner aujourd'hui des choses qui seront peut-être complètement dépassées dans quelques mois ?
Alors, la manière de l'enseigner, c'est d'enseigner avec l'IA. On n'enseigne pas l'IA en tant que telle. Kedge Business School est une école de commerce. Et donc, l'objectif pour la formation de nos étudiants qui sont tous formés à l'IA, c'est bien de travailler avec l'IA. Donc là, on est plus sur la notion de manager augmenté avec des notions de responsabilité éthique et d'apprentissage des usages professionnels chez nos jeunes étudiants. Mais on adresse toute la ligne managériale également avec les seniors et la formation continue afin de réconcilier ces deux mondes qui sont en train de s'éloigner.
Merci beaucoup Céline Daven. Je suis désolé, j'ai écorché votre prénom, directrice des programmes à la Kedge Business School. Merci d'être venue ce matin sur Radio Classique.
Merci à vous.
6h56, dans un instant, David Abiker prend le relais pour la matinale jusqu'à 9h.
Chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999€ ou en classe affaires à partir de 1499€.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promos d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Vous aussi, vous cherchez ? Où et comment placer votre argent ? Pour vos placements en bourse ou en assurance vie, rien de plus simple avec Bourse Direct. Suivez nos formations, investissez, épargnez, le tout à moindre frais. Et ça, c'est important. Avec Bourse Direct, vivez vos placements autrement. Risque de perte en capital. Courtier d'assurance numéro Orias 08 044 344. Communication promotionnelle.
6h57 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal de Lénaïque Monnier et David Abiker jusqu'à 9h pour la matinale.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
La météo de ce mercredi avec vous, Lénaïque Monnier, la pluie et le vent sont au programme sur l'ouest du pays.
Oui, avec cette nouvelle perturbation qui aborde la Bretagne et le nord-ouest avec des sols déjà gorgés d'eau, d'où un risque d'inondation. D'ailleurs, le Finistère et le Morbihan sont placés en vigilance orange jusqu'à cet après-midi. À l'est, c'est plus calme, mais souvent gris et froid. Et cet après-midi, la perturbation va toucher la moitié ouest du pays. À l'est, vous aurez de belles éclaircies. Les températures, 6 degrés à Bordeaux ce matin, 9 à Rennes et 0 à Strasbourg. Et cet après-midi, vous aurez 10 degrés à Nantes, 12 à Paris et Marseille, 7 à Orléans.
La matinale de Radio Classique continue jusqu'à 9h avec David Abiker. Bonjour David.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
De la faillite mondiale, j'allais vous demander la météo. Non, la faillite mondiale de l'eau au programme ce matin.
Alors que la moitié de l'humanité subit chaque année un mois de grave pénurie d'eau, un rapport d'experts de l'ONU sonne l'alerte et appelle à agir sans attendre. L'eau, plus précisément le manque d'eau, c'est le sujet du livre que vient de publier Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire. Un village français confronté à la sécheresse. Le philosophe écolo-libéral est l'invité de la matinale de Radio Classique à 8h15. Avoir des responsabilités, encadrer, recadrer, faire passer des entretiens d'évaluation, qui veut être manager ? Eh bien, selon une enquête de l'Association pour l'emploi des cadres, plus grand monde. Reportage de Simon Marseille à 7h30 dans le journal de Charles Bonner. Davos attend Donald Trump, dont l'avion a eu un petit problème électrique. À quoi faut-il s'attendre avec le président américain ? Va-t-il répondre au discours de fermeté prononcé hier par Emmanuel Macron ? Christian Macarian pose la question à 7h40, suivi du journal imprévisible. Il y a 50 ans, le premier vol commercial du Concorde, Marc Bourreau, vous conte l'histoire d'un coup de foudre supersonique. À 8h05, David Barrou vous parlera, lui, du tourisme mondial qui se porte bien. Enfin, le